En compagnie ce soir de Michel Bouquet. Bonsoir, monsieur
Bonsoir.
Bouquet.
Et Bonsoir, en monsieur Bouquet.
Et en compagnie de Léo Ferré.
Et en compagnie de Léo.
À 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine et nos soirées sans cinéma. Et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi. Je conserve le piano.
Ma vie d'artiste, plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras, je m'en fiche.
Ferré, la vie d'artiste, Michel Bouquet.
Oui, c'est bien d'avoir commencé par cette chanson qu'il dit, parce que ça nous fait entrer en contact avec lui dans ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire son âme. C'est un des êtres qui m'a le plus frappé par sa sensibilité, par cette authenticité, ce goût de l'honnêteté, d'être ce qu'il était, respecter ce qu'il était et de porter ce qu'il était au maximum de ce qu'un être humain peut faire de lui-même à lui-même. C'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. C'est cette réussite extraordinaire d'avoir gardé l'humain en lui à ce point. Et toute la vie, on s'est rencontrés quelques fois, comme ça, ou des tournées, des choses comme ça. On s'est rencontrés quelques fois, mais jamais sans aller très loin, jamais sans pousser le bouchon trop loin. Non, tout simplement, tout simplement. Et je crois qu'il m'aimait bien, mais ça restait de camarade à camarade. Et c'était comme un exemple. Et en tout cas, de le rencontrer, c'était quelque chose de très tonifiant parce qu'on se disait, il est sur la bonne route, il est sur la route, il est comme on doit être. Et si on avait tendance à l'oublier, le fait de le rencontrer, de le voir, d'être avec lui une heure, deux heures, trois heures, ça suffisait pour se dire, il faut rester bien dans la ligne, il faut bien suivre la ligne. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas rencontré souvent, que je n'ai pas rencontré souvent, même j'ai rencontré des êtres tout à fait étonnants, tout à fait extraordinaires, ici même dans cette maison, alors n'en parlons pas, j'y ai passé 25 ans, au moment où la radio était vraiment une chose tout à fait importante pour tout le monde, puisqu'il n'y avait pas la télévision, et qu'il y avait les plus grands auteurs issus de la Résistance qui étaient là, et qui étaient là à longueur de journée, que ce soit Sandrard, que ce soit Malraux, que ce soit Supervielle, que ce soit enfin tous Michaud, tous
ça a changé, hein.
Ça a changé. Oui. Et à ce moment-là, je veux dire, toute cette époque-là est restée. Enfin, mais lui était une sorte de comment dirais-je, le point de la boussole qu'il ne faut jamais quitter. Pour ne pas tomber soit dans l'excès d'intérêt pour soi-même, soit trop d'excès pour le monde, de rester dans la ligne qui reste humaine, profonde, sensible.
Et ça, dès la première rencontre, vous dites, dès que vous l'avez rencontré, vous avez senti qu'il était tout entier dans sa sincérité.
Dans sa sincérité, oui, oui. La première fois que je l'ai vu, il ne m'a pas vu quand je l'ai vu. J'étais au théâtre Grammont pour dire quelques poèmes comme ça. Prenez garde à la poésie. Voilà, c'était cette émission-là de Jean Chouquet qui se donnait à ce moment-là en direct au théâtre Grammont tous les samedis après-midi. Et Léo était là parmi d'autres chanteurs. Il y avait Aznavour, il y avait beaucoup de gens remarquables qui passaient dans cette émission. Et lui qui chantait Joli Môme, ça je me rappellerai toujours, qui chantait Joli Môme comme ça. Et je me disais, mais quelle merveille cette chanson, quelle merveille. Et il la chantait en annonant presque, en annonant. Il n'avait pas, pour ainsi dire, pas de voix. Mais il y avait une présence, il avait son costume vert, ce fameux costume vert à carreaux, là, à grands carreaux.
C'était le seul qu'il avait à l'époque.
Oui, oui, le seul. Et alors, tous les 8 jours, donc, je participais à cette émission et de temps en temps, il venait, il chantait une autre chanson. Et à chaque fois, je me disais, cet homme est tout à fait saisissant, tout à fait profondément vrai, profondément juste.
T'es toute nue, sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou fonce l'affaire, mais c'est tout, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, au joli môme. avec un point sur les i du chagrin de la vie, et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retourner, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme.
Après, on s'est revus au milieu de la vie, comme ça, pendant des tournées, à Bruxelles, souvent aux Armes de Bruxelles, tout ça. Et on mangeait ensemble, on bavardait de ce qui nous arrivait, mais tout ça, gentiment. Et puis après, je l'ai revu à l'Olympia, sur la fin de sa vie. Et puis, tout à coup, je me suis dit, mais c'est étonnant, comment a-t-il fait pour parvenir, lui qui n'avait pas, pour ainsi dire, pas de voix au début. Alors ça m'a estomaqué en tant qu'interprète. Comment est-il arrivé à cette puissance vocale? Comment est-il arrivé à exprimer l'entièreté de sa nature par la voix? Comme avec grâce aux chansons qu'il écrivait, mais comment est-il arrivé techniquement à la chose? Et alors ça, je me suis dit, cet homme est fait d'une pâte, il est fait en acier, parce que pour arriver à sortir de rien une telle force, une telle voix, une telle puissance vocale, comment a-t-il fait?
C'est le professeur du conservatoire là qui réagissait.
Non, mais là j'étais vraiment étonné parce qu'il l'a fait de lui-même et il l'a fait en autodidacte. Il l'a fait parce que la nécessité. Alors je connaissais évidemment toutes les chansons qu'il avait écrites, Verlaine, les Baudelaire, les Rimbaud, tout ça, qui sont des pures merveilles, qui sont des chansons qui m'ont presque empêché de mourir à 2-3 ans, à un moment très difficile de ma vie. Je remettais les chansons de Ferré, par exemple, sur les Verlaine Rimbaud, et je repartais. Il ne savait pas qu'il m'avait apporté tout ça. Mais il m'a sauvé 2-3 fois. Et c'est cette authenticité, c'est cette qualité humaine.
Je comprends bien ce que vous dites parce que Ferré a été important dans ma vie à travers ça aussi. Je lui ai jamais dit non plus. Et je crois que vous ne lui en avez jamais parlé.
Non, non.
Mais dans des moments d'extrême solitude et de panique, Ferré venait là.
Ouais.
Faisait bien pleurer.
Ouais.
Je pleurais toute la nuit en écoutant ses disques. Ouais. Et puis, au matin, ça allait mieux.
Ça allait mieux, oui.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'allume de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Avec le temps, Michel Bouquet, vous avez un large sourire. Moi aussi, on est bien.
Ben oui.
Quand il y a une belle,
on est avec un poète, oui. C'est-à-dire, ce qui est très étonnant chez Ferré, c'est l'énorme poète qu'il est. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il y a de grands, grands paroliers, il y a de très grands chanteurs, il y a de très grands, je veux dire, musiciens, il y a de, mais là, on est avec le poète.
Et vous savez de quoi vous parlez.
Vous
avez consacré votre vie aux mots, à la poésie.
Oui, j'ai consacré ma vie à une admiration pour la poésie, pour les mots, pour les grands auteurs. J'ai passé ma vie à essayer de les comprendre, de les aimer, de savoir ce qu'il y avait en dessous, pourquoi ils avaient écrit ci, pourquoi ils avaient écrit ça, quelle était la raison pour laquelle ils l'avaient écrit comme ça. C'est fascinant, et quand on passe sa vie avec ces très grands auteurs ou ces très grands poètes
à la recherche des secrets
des secrets de ce qui a provoqué le fait qu'il ait pris la plume pour écrire ça plutôt qu'autre chose. Et chez Ferré, il y a cette rareté d'être en prise directe avec son émotion la plus importante et qui est partagée par tous ceux qui l'écoutent.
C'est vrai qu'il disait que parfois l'écriture lui venait d'ailleurs, qu'il pratiquait l'écriture automatique, que sa main était tenue.
Oui, c'est ce qui m'a tellement touché d'ailleurs dans les lettres non postées, c'est de faire connaissance. Ça, c'est Mathieu Ferré qui me les a donné
son
à
fils,
lire,
oui.
Son fils, et Marie, son épouse. Et moi, personnellement, quand je les ai lus, j'ai encore compris mieux à quel point l'homme était un écrivain. L'homme était un poète, l'homme était véritablement quelqu'un d'important pour la littérature de tous les temps. Et il était associable à Villon, à Villon, à Ronsard, à d'autres, à Baudelaire, à Rimbaud. Il n'est pas du tout, il n'est pas du tout, il est complètement de la famille, quoi. Il est complètement de la famille.
Et l'homme s'est trompé quand il dit qu'avec le temps tout s'en va. Oui. Eh ben, c'est pas vrai. Le poète reste, ses chansons sont là toujours.
Bien sûr, elles seront là toujours. Oui.
Et grâce à vous, oui. Michel Bouquet, même des textes qui étaient appelés à ne pas être connus du public, puisque c'était des lettres qu'il avait fait, oui. Non postées, qui n'avaient jamais été publiées. Oui. Voilà que son fils et Marie viennent vous voir.
Oui, oui.
Et que vous enregistrez ces lettres.
Oui, je les ai enregistrées avec énormément d'un bonheur bonheur profond. J'espère que je les ai pas trop mal faites, parce que j'ai toujours peur de ça, parce que quand on touche à ce qui est authentique chez un poète, il faut faire très attention. Mais je les ai bien préparés pour essayer de rendre le secret qui accompagne cette écriture. C'est-à-dire cette chose qui est presque en marge de sa vie, cette chose qui est, il laissait tout ça de côté dans un coin, et puis il s'est dit ça ne sera jamais publié, ça ne sera jamais, et tout à coup, une fois qu'il n'était plus là, Mathieu et Marion et sa fille aussi ont ramassé tout ça et ont dit ne laissons pas ça dans le secret, ne laissons plus ça dans le secret, montrons-le.
Vous voulez bien qu'on écoute lettre à un critique?
Oui.
Hein,
moi j'aurais du mal, si vous voulez, j'aurais du mal à l'écouter, parce que je vais me faire des tas de reproches.
Oui.
Mais il faut l'écouter.
Bouchez-vous les oreilles. Et puis il a écrit ses lettres, Léo Ferré, dans les années fin des années 50, début des années 60, hein, par là.
Oui.
Et lettre à un critique, il aurait pu l'écrire hier. Hein.
Ah oui. Ça. Lettre à un critique. Je viens de vous construire en un quart de plume comme un robot. Et je pense qu'il vous sera difficile de vous reconnaître, car vous êtes devenu pour les besoins de ma lettre une idée générale, un sigle comme la RATP, ou si vous préférez, un pantin désarticulé et minable, sur lequel je daignerais m'arrêter quelques instants. Où travaillez-vous en ce moment? Au rez-de-chaussée, chez la Variété, à l'entresol, avec Madame Françoise Sagan, au premier, avec Jean Anouilh, plus haut, devant le buffet, ou peut-être, à l'heure qu'il est, vous reste-t-il assez de verbes et d'autres choses pour pousser une pointe vers les rimes de l'Institut et laver la vaisselle? Dans votre société anonyme de l'incompétence, êtes-vous bien placé? Peut-être la présidence? Chapeau. Peut-être simplement sur la bonne voie. Persistez. Votre tour viendra si vous avez la manière. Peut-être enfin, n'êtes-vous encore que garçon de bureau. Que voulez-vous? Il en faut. Astiquez-vous l'échine. Pas trop. Ça se verrait. Purgez-vous souvent. Il en est des gargotes comme du sexe. La propreté, voilà le secret. N'allez jamais à la banque pour y passer des écritures. C'est insoutenable. Contentez-vous de l'argent frais. Et croyez-moi, quand il l'est autant que le poisson, il ne sent pas et fait du bien à la santé. Méfiez-vous de la mafia, très difficile à dénombrer au début. Ensuite, ça va tout seul. Un moyen, entre autres, ignorez absolument les patronymes qui n'ont pas l'air tout à fait français. Si on vous en parle à votre rayon, dites que vous en manquez en ce moment. Mais que c'est très bien, toujours très bien. Si vous voulez faire de la radio, renseignez-vous adroitement sur les patrons. Il en est qui écrivent. Dans le doute, Abstenez-vous. N'allez pas vous mettre inutilement à dos des gens susceptibles de vous employer.
Michel Bouquet, vous aimez Ravel, vous aimez la musique en général, vous en avez besoin?
J'en ai eu besoin, j'en ai moins besoin maintenant, mais quand j'en ai besoin d'une manière plus radicale, plus nécessaire. C'est pour ça que je ne gaspille pas trop. dans des écoutes trop répétées, je veux dire. J'ai besoin de me faire une idée aussi de ce que j'ai entendu. J'ai besoin de situer, de comprendre ce qui m'a touché, d'analyser pourquoi j'ai été touché à ce point. Par exemple, je parle du Boléro de Ravel parce que j'ai vu une émission sur Arte un jour de Celibidache qui dirigeait le Boléro de Ravel. Et j'ai été très étonné parce que je me suis trouvé à la fin du Boléro de Ravel en larmes. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'une musique, enfin, si précieuse, si concise, d'une orchestration absolument phénoménale, mais qui est quelque chose de un travail esthétique, presque uniquement presque esthétique. Pourquoi est-ce que ça m'a ému à ce point-là? Et alors, j'ai eu le sentiment que Celibidache y était pour quelque chose, bien sûr, bien entendu. Que les événements avec l'islam avaient leur part de responsabilité dans cette émotion qui m'avait saisi profondément. Et dans cette avancée du toujours du même thème, avec de plus en plus de participants à l'orchestre répétant continuellement la même chose, j'ai vu des armées en marche, j'ai vu des choses qui étaient... Et alors, ça devenait absolument, je veux dire, énorme. Ça me terrassait littéralement, ça me pénétrait complètement. Et alors je me suis dit, c'est drôle, parce que ce n'était pas le but de Ravel, dans les œuvres d'art, ce qui est merveilleux, quand une œuvre d'art est une œuvre d'art, ce qui est merveilleux, c'est que au cours des événements de la vie, quoi qu'il arrive, quand il se retourne dans sa tombe, ce monsieur qui a écrit ça, dans sa petite boîte, il se retourne toujours du bon côté. C'est très curieux. On a ça avec Molière, on a ça avec tous les grands auteurs, Strindberg ou d'autres, qui se retournent toujours. Et ils se retournent, puisque le monde bouge et continuellement, politiquement, à tout niveau, socialement, au niveau de la sensibilité aussi, des couleurs, de tout. Ils se retournent toujours agréablement, si je peux dire, et avec un sens nouveau à chaque fois. Et alors, j'étais sidéré. J'ai ça avec Bruckner, évidemment, j'ai ça avec Beethoven, ou avec Mozart, évidemment, ou avec Bach. Mais je veux dire, ils sont toujours ces diables de gens, tout à fait, dans le moment du temps où on les entend. C'est très étonnant, ça.
La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile. Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile la poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voit. D'un vaisseau qui souffre, le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autrefois, calme plat, grand miroir.
Michel Bouquet, vous parliez musique avec Léo Ferré, ça vous est arrivé parce qu'il avait cette passion de la musique. Vous savez qu'à la base, il était chef d'orchestre.
Bien sûr, bébé, il y a un texte d'ailleurs là-dessus.
Il a souffert d'ailleurs de ce manque de reconnaissance.
Oui. Non, je n'ai pas parlé. Moi, je l'associais dans mon esprit à Puccini. Je trouvais qu'il y avait une filiation entre Puccini. Moi, j'aime énormément Puccini. Je trouve que c'est une musique qui est tellement authentique. Les airs de Puccini sont tellement, tellement vrais que même si cette musique, par certains côtés, vous paraît un petit peu datée, un petit peu surannée, un petit peu, elle est à chaque fois de plus en plus prenante. De plus en plus nécessaire aussi à entendre. Et pourtant, j'aime des musiques beaucoup plus élaborées, beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus travaillées que cette. Mais il y a là la veine populaire, il y a là quelque chose d'intime et de.
Il y a deux mots qui reviennent souvent dans votre vocabulaire, Michel Bouquet, c'est. Authentique et sincérité.
Sincérité, oui, parce que je veux dire, c'est sincérité, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il me semble que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si on veut pratiquer l'art, ou en tout cas servir l'art, c'est très important, oui. C'est très important. C'est-à-dire que les choses les plus simples sont souvent les plus compliquées, les plus complexes, les plus difficiles à atteindre. Il est quelquefois plus facile de faire une chose tonitruante ou extraordinaire, ou je veux dire, ou calculée comme il y a dans Stravinsky, comme il y a dans certaines choses. Mais une chose toute simple, un air tout simple. C'est ce qu'il y a de plus, je crois, de plus difficile.
C'est pareil pour les acteurs.
Oui, je pense qu'il faut passer par beaucoup de chemins très compliqués pour arriver à un chemin tout simple, quoi. Et plus on arrive à un chemin tout simple, mieux c'est.
C'est pour ça que vous reprenez régulièrement.
Je reprends souvent des pièces.
Des pièces que vous avez déjà jouées.
Oui, parce que.
Pour être plus proche de la vérité, pour être encore plus sincère.
Encore, oui. Pour être plus surpris, plus en état d'être surpris en le faisant. Et c'est d'ailleurs en inventant à la dernière seconde, plus sur la corde raide, plus... alors donc, connaître admirablement l'œuvre dans toutes ces secondes ou ces demi-secondes, pour pouvoir, je veux dire, se payer le luxe, si vous voulez, de ne pas coller à ça quelque chose qu'on aurait prémédité, mais pour laisser ça vivre sa vie propre. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc il faut que je reprenne des choses que j'ai déjà jouées assez longtemps, comme par exemple Le Roi se meurt ou d'autres choses, mais ou l'Avare que je vais reprendre pour me dire quelle est mon opinion maintenant sur Molière, quelle est mon opinion maintenant sur Ionesco, qu'est-ce que j'ai oublié à dire avec et on trouve toujours des tas de choses qu'on a oubliées. Alors on essaie d'en rendre compte.
Peut espérer avoir les lettres non postées un jour sur scène?
Je ne sais pas du tout ça. Je ne sais pas. Moi, j'évite de faire des choses, je veux dire, trop personnelles au théâtre. Si je suis au théâtre, j'aime bien que ce soit une pièce de théâtre. J'aime pas que ce soit autre chose qu'une pièce de théâtre. Mais ça, c'est une manie de vieux. C'est une manie de vieux. Non, mais je n'aime pas qu'on fasse du roman au théâtre. Enfin, quand c'est bien fait, je suis très touché. Ou des lectures, ou des one-man shows, des choses comme ça. J'aime bien, ça peut être très 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 bien. Mais au théâtre, j'aime bien que ce soit une pièce de théâtre.
De la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'un. décide que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillé des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance, oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps, puis du plus loin, la pointe assassine. L'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tornis son cou et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime passagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce pigeon d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours. La chose envolée, ton sang qui fuit d'une âme en aller vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure et passe au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais la solitude. Sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour.
La solitude.
Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... L'espoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Michel Bouquet, on va se quitter. Merci d'être venu nous parler.
C'est moi qui vous remercie.
Avec cette sincérité de Léo Ferré, pour qui j'ai une grande tendresse et admiration.
Oui.
Et au bout de tant d'années de métier maintenant, parce que ça fait 60 ans que vous faites...
64.
64 ans que vous faites l'acteur.
J'ai commencé à 17 ans, oui. J'en ai 80.
Vous faites le bilan, de temps en temps?
Non.
Non?
Oh, je fais pas du tout de bilan, non, non.
Vous êtes content de vous, ou il faut encore travailler?
Non, je suis au travail, non, ouais, non, je suis au travail. Non, non, je suis au travail, mais c'est pas de la fausse modestie, c'est... J'ai toujours travaillé, parce que j'ai plaisir à travailler. Quand j'étais ici dans cette maison, et que je travaillais toute la journée sur Saint John Perse, ou sur Dante, ou sur... Il y avait les analyses spectrales de l'Occident, toutes ces grandes émissions qui duraient 24 heures, on passait 24 heures avec Racine, ou avec Saint John Perse, ou avec Dante, ou avec Molière, ou avec... C'était étonnant, ces émissions-là. J'étais toujours fasciné par l'aspect, enfin, je veux dire, l'aspect de la chose à apprendre. On apprend toujours. Donc, pour moi, le plaisir, c'est d'apprendre, c'est de percer le secret, c'est d'analyser, c'est de comprendre. Et pour moi, c'est ma vie.
Vous avez appris votre métier. Au départ, vous étiez mitron.
Mitron, oui. J'étais mitron.
Apprenti pâtissier.
Oui, oui. Au moment de la défaite, oui, quand on est... Au moment de la défaite, ça a été une chose atroce pour moi. Je ne sais pas, j'avais 14 ans et demi, mais ça a été une chose qui m'a bouleversé, je n'ai jamais oublié, j'ai toujours eu cette marque dans l'esprit, enfin, cette marque de la défaite, de l'occupation, de tout ça. Donc pendant cette période-là, j'ai été à Lyon, et j'ai été mitron, et après je suis rentré à Paris, puis j'ai été mitron à nouveau à Paris, et puis après ça, j'ai été mécanicien dentiste quelque temps, mais pas très longtemps, parce que c'était vraiment, alors, pas trop ridicule. Après, j'ai été au service de la manutention au Crédit du Nord. Et puis après, j'ai dit non, c'est vraiment, si je suis dans une boîte qui s'appelle un théâtre, même si c'est pour balayer le plateau ou pour éclairer un peu les autres, je serai heureux là, et je ne serai heureux que là, quoi.
Et vous voilà, professeur. Merci Michel Bouquet.
Merci.
Pollène, les copains d'abord, consacrés ce soir à Léo Ferré, en compagnie de Michel Bouquet. Voilà, on se retrouve dans un instant, tout de suite après les informations pour la suite de Pollène Timal avec Ambre. À tout à l'heure.
Et ben voilà, c'est avec le Boléro de Ravel que se termine la première partie de Pollène, les copains d'abord. Et après ce tête-à-tête en compagnie de Michel Bouquet, nous retrouverons Jean-Louis Foulquier en compagnie de Ambre dans un instant pour Timal, la partie magazine après le journal de 22h. Et puis ensuite, à partir de 23h, sachez que Malik nous invite comme chaque vendredi soir à ses Boulibaï Vibrations et il recevra en direct des artistes qui devraient nous gratifier de quelques vocalises. Ce sera à partir de 23h sur l'antenne de France Inter. Mais je m'avance, il n'est que 22h.